Oui, c'est une autre proposition de modèle que celle d'Aurélien Bélanger, mais c'est une première historique. Après un nouveau décompte du magazine américain Forbes, qui est spécialiste des gros sous, l'information est sortie cette semaine. Jay-Z devient le premier milliardaire du rap, le premier de cette musique venue du ghetto à rejoindre le petit club des milliardaires de la pop culture. Et ce n'est pas rien, la nouvelle dépasse largement le registre des classements. Jay-Z, plus riche qu'Elton John ou Madonna, mais moins que George Lucas ou Steven Spielberg, telle n'est pas la question. C'est un nouveau statut de l'artiste qui se définit, et avec lui un nouveau rôle modèle, comme disent les Américains, c'est-à-dire un nouveau modèle d'inspiration et d'aspiration. Car la fortune de Jay-Z ne provient pas tant de ses ventes de disques que de la diversification de ses activités et de son patrimoine. Sa musique occupe même une part mineure dans ce décompte. Si son catalogue musical est estimé à 75 millions de dollars, Jay-Z pèse aussi 220 millions de cognac, non pardon, 220 millions de champagne, parce qu'il a des actions dans une marque de champagne, 100 millions grâce à son propre cognac, 100 millions grâce à sa plateforme musicale Tidal, qui sort d'ailleurs aujourd'hui en exclusivité les originaux de Prince, composés pour d'autres artistes. Un coup négocié de longue date par Jay-Z, qui est aussi curateur de l'album. À la presse, il déclarait que Prince était un des artistes les plus courageux de l'industrie et qu'il était fier de transmettre son héritage en tant qu'organisation dédiée à l'empowerment des artistes. Voilà la définition de son business par Jay-Z, publicitaire hors pair. Jay-Z n'est pas un businessman, c'est le businessman, comme il le chantait dans ce remix d'un titre d'un autre rappeur qui ne vend pas que des disques, Kanye West. In my sleep, I sell kilos of coke. I'm guessing I could sell CDs. I'm not a businessman, I'm a businessman. Let me handle my business, damn. Kanye's, you got me. Freeway to Foxy, YG's, Tierra Marie, Petey, watch me. Bleak could be one hit away his whole career. As long as I'm alive, he's a millionaire. And even if I j'ai vendu des kilos de cocaïne, je pense que je suis capable de vendre des disques. Je ne suis pas un businessman, je suis le businessman. L'ex-dealer élevé dans une famille pauvre et monoparentale.
C'est bien, c'est mieux que les
Beatles. Hein. Oui. Dans un
vous avez
HLM
dit oui.
De Brooklyn, non. A fait fortune avec son esprit d'entrepreneur.
Alors c'est oui ou c'est non?
Alors je vais vous dire un truc, oui. Si vous voulez que je m'arrête au milieu de ma chronique, je vais le faire, Guillaume Erner. Je pense que j'ai eu un grand moment de nostalgie quand cette information est apparue dans ma ligne du temps, ma timeline. Je me suis dit, mais moi qui vivais dans un monde où les grandes stars de la chanson, c'était les Beatles, les premiers vendeurs d'albums au monde, et on écouterait Abbey Road toute notre vie, et c'était tellement magistral que c'était rémunérateur. Mais effectivement, il y a une forme de l'artiste et un statut de l'artiste qui est en train de changer.
Indéniablement.
Indéniablement. Il a fait fortune, hein, avec son esprit d'entrepreneur et la diversification de ses activités. Ça a commencé avec ce premier album, Reasonable Doubt.
Voilà, du coup,
produit par son propre label Rockefeller Records. Voilà donc la légende de l'artiste qui succède à deux grands paradigmes, celui de l'artiste maudit qui vaut de l'or après sa mort et celui de la star mondiale qui vit donc de son talent comme les Beatles et de ses royalties. Le créateur entrepreneur est le nouveau modèle. Cette semaine, Rihanna était aussi classée plus riche chanteuse au monde, principalement grâce à sa musique mais aussi sa ligne de cosmétiques et récemment devenant la première femme noire à diriger une ligne dans une grande maison de luxe. Quant aux rappeurs de la cité des Tarterets, PNL, qui sont maintenant parmi les 100 artistes les plus populaires au monde, ils ont inauguré leur boutique à Paris en plein week-end des Européennes. Et c'était l'émeute pour des briquets à 40 euros et des survêtements à 150 euros. L'artiste chef d'une entreprise diversifiée, ce n'est pas nouveau. Déjà, Dr. Dre est devenu le rappeur le plus riche du monde en vendant sa ligne de casque audio à Apple. Et au 19e siècle, les Van Gogh, Vincent et Théo, toute proportion gardée, faisaient du business en revendant des estampes japonaises. Mais ce qui est marquant, et particulièrement dans le cas des rappeurs, c'est cette alliance entre les discours de revendication du ghetto et la puissance capitaliste. Plutôt que de s'annuler, la combinaison de ces forces devient un modèle d'indépendance et de réussite dont on s'achète une part en buvant du cognac de Jay-Z ou en portant une casquette de PNL. La revanche de l'argent et de la puissance fait partie du rêve, ce qui stimule la volonté d'émancipation et de réussite, mais qui restreint, il faut bien le dire, fortement l'horizon imaginaire.
Et puis, il y a une anachronique culturelle, l'émission en podcast que vous pouvez télécharger et écouter Mathilde Serrel avec aujourd'hui comme thème.
Avec aujourd'hui comme thème Chambord. Ça va nous changer de Jay-Z.
C'est un château, je crois.
Il y aura peut-être un clip de Jay-Z et Beyoncé un jour à Chambord. Nous sommes en 1519 et François Ier vient de signer l'ordonnance pour la construction de Chambord qui est, il faut le dire rétrospectivement, l'anti-Versailles.